Ici Raymond Poirier, vendredi 25 novembre de l'an de grâce 2011. Vous écoutez La vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle édition de La Vie en BD, votre magazine qui survole, qui vous propose un regard sur l'univers de la bande dessinée, de l'illustration, de l'animation et du fanzine. Toujours un plaisir, bien entendu, d'être avec vous, de démarrer cette fin de semaine avec vous. Et une belle émission, comme d'habitude également, remarque, il faut se donner ce qualificatif, on a plaisir à se le donner, à vous le proposer également. Alors, de beaux invités cette semaine, notamment, on va porter un regard sur l'album Paul au parc des éditions La Pastèque, donc le dernier Paul, très attendu évidemment, Paul à Québec qui a eu un succès retentissant, a-t-on besoin de le préciser? Alors Michel Rabagliati sera avec nous tout à l'heure pour nous parler de ce nouvel opus. Également du côté de l'Outaouais, une nouvelle série qui a été lancée aux éditions Première Ligne. Alors il s'agit de strips autour de l'univers d'un lapin qui s'appelle Bonnie. L'auteur Yann Fortin sera de passage pour nous présenter cette nouvelle série. Également, chronique de cette semaine, c'est Pascal Roux qui sera de passage dans les studios de CKRL. Et elle va nous proposer un petit regard sur les mangas d'horreur avec quelques suggestions, bien entendu. Et tout à l'heure, on va jaser avec Stéphane Gravel, commentaire BD. Il va nous amener sur le terrain des ignorants. Ah ben voilà, c'est le programme pour cette semaine. J'en profite également pour vous remercier bien bassement et bien chaleureusement, puisque hier, au gala de CKRL édition 2011, La Vie en BD a reçu le prix meilleure nouvelle émission, meilleure émission recrue à cette station. Alors, ben, c'est un grand honneur, un grand plaisir, bien entendu, pour moi et pour l'équipe de recevoir cette récompense. Et si vous avez voté, si vous avez appuyé La Vie en BD par le vote populaire qui était ouvert via le site de CKRL, eh ben, je vous en remercie. Si vous avez appuyé d'autres émissions, je vous en remercie également parce que c'est le genre de choses qui font chaud au cœur. En fait, c'est un peu l'une des payes des animateurs, bien entendu. Le plaisir d'être avec vous à chaque semaine, de faire cette émission à chaque semaine, mais il y a également le plaisir de vous savoir de l'autre côté, de vous savoir à l'écoute autant de cette émission que de la soixantaine d'autres que vous retrouvez ici sur les ondes du 89.1. Alors, ben merci pour cela et bien entendu, restez avec nous, continuez de nous suivre, nous et tous les autres. Alors, cela étant dit, on se lance en musique. Ça me donne l'occasion de reprendre mon souffle en même temps. Et la sélection musicale pour cette semaine, puisque, bon, on vous le rappelle à chaque fois, un artiste qui nous accompagne à raison de 3 ou 4 extraits au fil de l'émission. Et cette semaine, je me suis dit, ben on va assumer notre côté un peu gamer et on va aller chercher un duo japonais qui donne dans la musique 8 bits, mais une musique 8 bits qui est métissée aussi avec d'autres instruments, trompettes, corps et autres. Alors, c'est un duo japonais qui s'appelle Couple Crap et c'est disponible sur l'étiquette web gratuite qui s'appelle 8-Bit People. Alors, on écoute un premier extrait, 8-Bit Goes Goa. We'll be right back. toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes de CKRL. Et petite mention au passage, en fait, l'Association des critiques de bandes dessinées a choisi quelques temps les cinq albums, ces cinq meilleurs albums pour 2011. Bien entendu, on roule vers le sprint final qui déterminera la meilleure bande dessinée. Et parmi les nominations, ben, on en a parlé notamment d'une la semaine dernière, Portugal, de Cyril Pedrosa, également Paulina, de Bastien Vivès, il y a Habibi, de Craig Thompson, L'Art de voler, également, de Kim et Antonio Altarriba, et également une cinquième bande dessinée dont on va vous parler là, maintenant, tout de suite, en compagnie de Stéphane Gravel. D'abord, bonjour Stéphane.
Allô, allô.
Et la bande dessinée dont on parle, c'est Les Ignorants, récit d'une initiation croisée, le dernier Étienne Davodeau chez Futuropolis.
Ça va bien, hein? Je trouve qu'on a des belles, on a de belles BD, on a de bonnes BD, parce que les cinq BD qui sont, qui restent des 15 titres qu'on avait sortis, il y a deux semaines, je trouve que c'est des titres qui sont vraiment, vraiment très intéressants. On en a parlé longuement de Portugal il y a deux semaines, hein?
Oui, pour avoir lu Paulina, c'est absolument extraordinaire aussi.
Paulina, c'est d'une beauté et d'une douceur, inouïe. Et là, Les Ignorants d'Étienne Davodeau, ben, c'est une BD, c'est vraiment une BD extraordinaire. Davodeau va toujours me surprendre. Puis, à chaque fois qu'il y a un nouveau titre, je me dis, il pourra pas aller plus loin que le précédent. Ça se peut pas parce qu'il fait des choses qui sont toujours assez extraordinaires en bande dessinée. C'est son approche documentaire qui rend sa BD extrêmement intéressante. C'est que de plus en plus, Davodeau, réussit à avoir une bande dessinée qui, dans certains cas, dans certaines de ses BD, qui ont un caractère de documentaire qui est très, très, très fort. Mm-hmm. C'est sûr que Lulu Femme, on en a parlé beaucoup, c'est une BD qu'on avait beaucoup aimée, avec un scénario qui est extrêmement intéressant. C'était pas du documentaire. Mais là, Un homme est mort, une BD qu'il avait fait un petit peu plus tôt, ça, c'était un documentaire sur les grèves. Et puis là, maintenant, il fait une BD qui est extrêmement personnelle, qui est un très beau documentaire. Écoute, l'idée de base est simple. Étienne Davodeau est ignorant en vin. Mm-hmm. Il a un de ses amis qui lui est vigneron, il fait du vin. Il dit à son ami, il dit, écoute, il dit, moi, je connais rien dans le vin. Il dit, j'aimerais faire une bande dessinée avec toi sur le vin. Il dit, en échange, moi, je vais t'enseigner des choses sur la bande dessinée.
C'est une prémisse toute simple, mais extrêmement riche aussi en même temps.
Là. Exactement. Donc là, on part dans une bonne brique de 200 quelques pages d'aventure en noir et blanc d'un auteur de bande dessinée qui cherche à découvrir comment se fait le vin. Il passe une année entière avec ce personnage-là. Il participe à la récolte du vin. Il va aller jusqu'à goûter le vin qu'il a fait avec lui à la fin. C'est vrai qu'il va vraiment passer là, toutes les étapes de la taille des vignes jusqu'à l'embouteillage. Et parallèlement à ça, il va enseigner à son copain qu'est-ce que la bande dessinée, qui sont les grands auteurs. Ils vont aller en rencontrer quelques-uns. Je ne dirai pas les noms et tout parce que c'est le fun de vivre la surprise de tout ça. Lui va lire des BD, il va avoir une idée critique sur les BD, il va aller dans les festivals de bande dessinée avec Davodeau. Et là, ça devient extrêmement intéressant parce que c'est un mélange des deux côtés, et pour ça, c'est pour ça Les Ignorants. Et même nous, on est ignorants par rapport à tout ça, et c'est tellement bien raconté qu'on apprend plein de choses. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que, au-delà du plaisir de lecture, il y a vraiment une approche documentaire qui fait qu'on apprend des choses. J'ai appris des choses sur le vin. Ça m'a donné le goût d'aller me promener dans les vignobles ici, d'essayer de découvrir quels sont les vignerons du Québec, quels sont leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils pensent du vin, parce que le vin c'est riche là. Le vin c'est des images, c'est des parfums,
c'est des souvenirs,
c'est une philosophie. Chaque vigneron va avoir des façons différentes de faire leur vin parce qu'ils ont une perception différente du vin, et il y a un travail presque d'auteur aussi grand chez le vigneron qu'il y en a un chez l'auteur de bande dessinée qui lui aussi a ses démarches et lui aussi veut essayer de créer des sentiments, des souvenirs à la rigueur des parfums aussi, et un monde de rêve. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant.
Et Stéphane, ce que je trouve stimulant aussi, c'est que de plus en plus, j'ai l'impression qu'on exploite la bande dessinée comme outil documentaire. Et ça me fait penser, en fait, quand Art Spiegelman était passé à Montréal au début de l'automne, il avait dit, regardez, la bande dessinée a cette capacité de simplifier, de rendre palpable à peu près n'importe quoi lorsque c'est bien fait. Et c'est effectivement un médium documentaire qui est extrêmement stimulant, en fait, une bonne BD à savoir journalistique comme ça. Et le médium, lorsqu'il est bien exploité, et Davodo sait le faire, ça peut devenir extrêmement stimulant, comme tu le décris, à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés, et ça démontre une nouvelle fois le potentiel aussi du 9e art dans un domaine comme celui-là.
Oui, absolument. Écoute, moi, quand je fais de la télé, puis que je veux simplifier une explication, je vais passer par l'infographie, donc en quelque sorte l'illustration pour bien faire comprendre un truc qui est abstrait. Donc le dessin a cette force-là, c'est de faire image sur un concept qui peut être abstrait. Et puis là, étant donné que la bande dessinée de plus en plus prend ses lettres de noblesse et que ça devient le 9e art et qu'on parle de bande dessinée d'auteur et qu'on est conscient que dans la bande dessinée, ce n'est pas qu'il y a des petits Mickey et des petits histoires drôles, mais qu'il peut y avoir un point de vue, ben là, les auteurs peuvent aller plus loin et sans vouloir faire de comparaison, ben comme le cinéma se prête bien à la fiction, mais se prête bien au documentaire aussi. Mm-hmm. C'est rare en bande dessinée le documentaire, on n'en voit pas beaucoup.
Oui, il y a eu la communauté de Tancrel que j'avais bien aimé il y a quelques temps, il y en a quelques autres comme ça aussi qui sont apparus, mais effectivement, c'est pas encore généralisé. Il y a Guy Delisle avec ses récits de voyage, il y en a quelques-uns.
Oui,
là.
Oui. Puis quand on parle avec justement les bandes dessinées comme Guy Delisle et tout ça, il y a le petit côté autofiction. On sent qu'il y a encore le désir de l'aventure, de l'histoire, de l'humour aussi à travers tout ça. Mais là, avec les ignorants, c'est clairement une démarche de documentaire d'auteur. Il est totalement dans le genre. C'est sûr qu'il se met en scène, mais tu sens pas l'autofiction. C'est-à-dire qu'il se met pas en scène comme étant un personnage qui vit une aventure, mais il se met vraiment en scène comme la personne qui consciemment fait la bande dessinée sur le sujet qu'il nous donne. Et c'est là que je trouve qu'il y a vraiment une démarche encore plus documentaire que toutes les autres, là.
Alors, on invite les gens à la découvrir. On leur dit lisez-la, point. En fait, c'est l'impératif ici.
Ah oui, c'est incontournable. Comme Portugal est incontournable aussi, c'est des bandes dessinées majeures et c'est des moments de lecture tellement agréables. En plus, il fait pas beau la fin de semaine, il faut assaillir les librairies.
Ah ben voilà, je rappelle, c'est Les Ignorants, récits d'une initiation croisée. Le dernier, Étienne Davodo, disponible chez Futuropolis. Stéphane Gravel, merci, puis on se dit à dans deux semaines.
À dans deux semaines.
Merci à toi.
Bye.
Notre petit extrait de cet album de Cripplecraft, musique 8 bits. J'avais envie d'entendre ce type de son-là cette semaine. Cherchez pourquoi, je ne pourrais pas vous dire. L'extrait qu'on vient d'entendre s'appelle Zzz, tout simplement, donc une suite de Z. Et je vous rappelle, tout ça est disponible gratuitement sur le web via l'étiquette 8-Bit People. Un album qui est apparu en librairie tout récemment, qui était très attendu, évidemment, c'est le nouveau Paul au parc, toujours aux éditions La Pastèque. Et on va profiter cette semaine de l'occasion pour explorer un peu les tenants, les aboutissants de cet opus en compagnie de son auteur, Michel Rabagliati. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Paul au parc, en fait, c'est un retour en arrière. Et si on fait le comparatif avec Paul à Québec, c'est un retour un peu plus loin en arrière. Est-ce qu'on avait envie, dès le départ, de faire une césure avec l'époque peut-être un peu plus contemporaine de votre avant-dernier Paul.
Oui, c'est assez juste. J'avais envie peut-être de revenir en arrière et puis d'aller balayer un peu dans les coins ce qui restait de l'enfance de Paul. En fait, j'avais débuté la série un peu rapidement avec Paul à la campagne, qui était une espèce de... En fait, une bande dessinée pour me distraire. J'ai fait ça sur le coin de la table. Ça contenait seulement 24 pages. On retrouve Paul à une douzaine d'années à son chalet avec ses parents. Puis bon, il revient sur ses souvenirs. Mais c'était le seul épisode d'enfance de Paul. Et puis je trouvais que j'avais encore de la matière à aller explorer dans ce coin-là. Fait qu'on pourrait dire que Paul au parc, c'est un peu le numéro un, si vous voulez. C'est là qu'il est le plus jeune. En fait, je pourrais peut-être revenir à l'état de fœtus, mais pas peut-être un jour. Mais là, alors celui-là, il y a 10 ans, puis j'explore un peu plus en largeur. C'est quand même un livre de 160 pages sur la jeunesse de Paul.
Et c'est un peu large, en fait, où naissent les rêves, où naissent pour Paul et par extension pour vous, la passion, le désir de faire de la bande dessinée.
Oui, c'est quelque chose que j'avais envie de transmettre un peu aux lecteurs, puis bon, peut-être aux jeunes aussi en même temps. Ça arrive comme ça. Moi, je suis tombé sur un livre quand j'étais enfant qui s'appelait « Comment devenir créateur de bande dessinée ». C'est un livre mythique, ça, parmi les auteurs de bande dessinée. Aujourd'hui, tout le monde se souvient un peu de ce livre-là, ou enfin, aujourd'hui, il a disparu. Mais c'est un livre qui expliquait comment on fait de la bande dessinée, mais pas dans le sens comment on dessine, mais quel est le métier qu'est-ce que c'est le métier d'auteur de bande dessinée, comment il faut faire, quel matériel il faut prendre. On parle même des éditeurs, on parle même de là-dedans combien ça paye une planche de bande dessinée, qu'est-ce que ça demande comme habilité. Puis ça, c'est très intéressant. C'est un livre qui a été écrit par Franquin et JG dans les années... En fait, ça date de 69. Et puis j'avais été un peu... j'étais tombé un peu sur le derrière quand j'étais tombé sur ce livre-là. Je l'ai lu, relu, je ne sais pas combien de fois quand j'étais jeune. Ça me passionnait, ce livre-là.
Et ça vous a influencé. On voit Paul, justement, dans le livre qui essaie ses premières armes, premières planches. Est-ce que ça a été une occasion pour vous aussi de revenir sur comment vous aviez tenté initialement de vous lancer là-dessus avant une pause qui vous a ramené éventuellement à la bande dessinée en cours d'année 90, je crois?
Oui, c'est ça. En fait, ça m'avait encouragé à y aller. Puis moi, je suis quelqu'un qui... j'aime beaucoup explorer. Donc, si j'écoute de la musique, un guitariste, tout ça. Quand j'étais enfant, j'ai voulu jouer de la guitare jeune aussi parce que mon animateur scout en jouait. D'ailleurs, on le voit dans le livre, c'est lui qui m'apprend à jouer de la guitare. Et puis, bon, mine de rien, ça m'a mené vers le piano, l'accordéon, tout ça. C'est un livre aussi sur le mentorat. Moi, j'ai été très chanceux. J'ai eu des animateurs scouts très, très allumés et puis très près de nous qui essayaient de nous inculquer des valeurs aussi philosophiques de la vie et puis tout ça. Puis qui étaient très généreux de leur temps. Donc, j'en ai profité. Et puis, bon, c'est un peu un hommage à ces gens-là aujourd'hui que je vois plus, mais qui... Tu te rends compte seulement en vieillissant, tu te dis, mon Dieu, ces personnes-là ont été finalement pas mal plus importantes que je pense dans ma vie.
Et en même temps, c'est intéressant parce qu'on sent justement sur le mouvement scout, sur le passage de Paul, votre passage à l'intérieur de ce mouvement-là. Et initialement, en fait, quand on pense scout, on pense au côté ringard. Après ça, il y a un côté de nous qui dit, ah mon Dieu, scandale sexuel. et l'image que vous en proposez, au contraire, en fait, est extrêmement positive, extrêmement stimulante aussi.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le mouvement scout souffre d'une espèce d'image poussiéreuse, Baden-Powell-esque un peu. On pense un peu aux cadets, on pense un peu paramilitaires, on pense aussi hyper catholique, de droite, coincé, en retard. C'est pas du tout ça. Le mouvement a continué de prendre l'expansion. Les animateurs d'aujourd'hui, c'est pas les animateurs d'hier. Et puis il n'est pas seulement question de bondieuserie. C'est sûr que le mouvement scout est un peu mêlant dans la main avec l'Église catholique et tout ça, mais moi je vois rien de mal de toute façon. J'en ai tiré que du bonheur. Les valeurs qu'on nous inculquait, c'est des valeurs normales de partage, d'amitié, d'environnement, et puis tout ça, ça n'a pas changé. Moi, je suis pas devenu un prêtre à cause de ça. Ça nous portait à réfléchir. En fait, quand est-ce qu'on a l'occasion aujourd'hui au primaire de s'asseoir en rond autour d'un feu, puis de parler de la vie, parler de pourquoi on est sur Terre, puis parler de protéger la nature, des animaux, tout ça. Je pense que c'est vraiment le scoutisme est un lieu à part pour les jeunes. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est encore bon. Moi, je serais très content que ma fille y aille. Je veux dire, bon, elle y a pas été, je l'ai encouragé quand elle était ça y tentait pas. Mais c'est quelque chose que je l'ai encouragé pour ça, puis bon, ça n'a pas pogné avec elle, mais le mouvement scout reste quelque chose de bon, moi je pense, pour les jeunes, en marge de l'école, parce que justement, c'est pas l'école, c'est on apprend à faire donner, on apprend la valeur de l'argent, on peut apprendre n'importe quoi là-dedans. Les animateurs ont un paquet de trucs pour nous amener sur des sentiers qu'on connaît pas.
Oui, et à l'intérieur de ça, on parlait de mentorat tout à l'heure, d'apprentissage aussi. Dans le fond, Paul au parc, c'est un peu un côté épisodique, en fait, où on voit un peu d'où Paul vient, on voit ce qui l'a marqué, ce qui a fait de lui, justement, ce qu'on découvre au fil des albums par la suite, c'est ses premières influences, la famille aussi. Donc, il y a un côté très épisodique au récit que vous nous proposez.
Oui, en fait, c'est un peu la genèse du personnage. Si je pense que les gens qui connaissent la série vont en apprendre plus sur le personnage, d'où il vient, c'est quoi ses influences. Par exemple, j'illustre là-dedans que moi, mes grands-parents, c'était des Européens. C'était ma grand-mère qui était parisienne avec sa sœur, qui était également une Parisienne, qui sont emmenées au Canada. Bon, mon grand-père est décédé très jeune. Et puis, bon, ces deux femmes-là ont dû se débrouiller dans la vie, se trouver du travail. Et puis, bon, on habitait quasiment avec eux dans la maison. Ça, on voit ça dans l'album, ce qu'on voit pas dans les autres albums. C'est la première fois que j'aborde comme ça la belle famille de ma mère. Et puis, il y a aussi, Aline, donc la mère de Paul, qui souffre un peu de ça, de cette promiscuité-là avec sa belle famille qui est un peu trop présente à son goût. Donc ça, ça ajoute un peu au personnage, ça ajoute de la viande sur l'os un peu au niveau de Paul. On sait plus d'où il vient, quelles ont été ses influences. Quand il était jeune, il regardait, qu'est-ce qu'il regardait à la télé, comment ça se passait dans les années 70, comment il se comportait.
Oui, puis il y a tout le FLQ aussi que vous avez greffé derrière ça en trame de fond pour nous situer. Mais en même temps, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la proposition que vous faisiez là-dessus, c'est qu'on le voit et on voit ces événements-là, mais vraiment à travers les yeux de ce personnage, de cet enfant à son âge, à une dizaine d'années, quoi. Et on a sa compréhension à lui.
C'est une occasion en or, en fait, parce que je voulais parler de scoutisme. Moi, mes années de scoutisme se sont déroulées pendant les années aussi du FLQ. Je veux dire, je suis de Montréal, donc à Montréal, ça brassait pas mal, énormément de graffitis dans les rues, les bancs de parc, tout ça. On savait pas trop c'était quoi. Même nos parents savaient pas trop c'était quoi. Dans le fond, le FLQ, évidemment, tout ça a été dévoilé plus tard, mais je veux dire, on avait l'impression que le FLQ, c'est une espèce d'organisation tentaculaire. Et puis, quand on est enfant, quand on reçoit ces informations-là de nos parents, on regarde ça à la télé, on voit un peu des titres des journaux, mais on a 10 ans, on sait pas trop c'est quoi. Fait que moi, je m'imaginais que le FLQ, c'était des espions en imperméable avec des lunettes noires, puis un peu comme dans James Bond, c'est tout ça. Fait que c'est ça qui est dans les yeux de Paul. Paul n'a pas de commentaire à faire là-dessus, c'est juste qu'il est enfant pendant les événements d'octobre 70. Ces trucs-là arrivent, puis il regarde ça à la télé avec ses parents, et puis il a sa petite idée là-dessus, mais en même temps, j'explique quand même au lecteur c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il faut aller jusqu'au bout si on est pour s'aventurer sur ces sentiers-là, s'il faut raconter un peu l'histoire du FLQ. Donc, je raconte quand même les enlèvements, etc., dans un petit...
Regardez le contexte, là.
Ouais, je mets le lecteur en contexte, parce que, bon, ces albums-là s'en vont quand même en Europe, en Suisse, en Belgique, ça s'en va un peu partout. Fait qu'il faut que je pense à mon lecteur là-bas qui n'a aucune espèce d'idée de c'est quoi les événements d'octobre ici.
Et d'ailleurs, ça doit être intéressant et assez particulier aussi, j'imagine, dans un sens, donc de proposer comme ça des récits qui sont en bonne partie inspirés justement de vos souvenirs, de votre vécu, et de savoir qu'autant au Québec, il va avoir une résonance, il y a un lectorat qui attend. Je veux dire, Paul à Québec, ça a eu un succès fou. Et à l'international aussi, où il y a une très, très belle réception, donc de savoir que vos souvenirs vont intéressent autant de gens, j'imagine que ça doit être satisfaisant, mais ça doit mettre quand même aussi une certaine pression en disant, mais faut que je les raconte bien, faut que je chiffre des bons épisodes, des bons moments.
J'essaie de faire des livres. Moi, évidemment, ce que je fais, on appelle ça, bon, certains disent autobiographique, mais c'est pas tout à fait juste, c'est de l'autofiction, le vrai mot pour moi. Bon, évidemment, les épisodes de fiction, on les sent pas dans les Paul parce que c'est plausible, tout est plausible dans Paul. Donc, c'est très difficile de déceler ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, parce que, bon, ça se passe à Rosemont, à Montréal, puis tout est absolument plausible là-dedans. J'essaie toujours de faire un récit intéressant, captivant, où est-ce qu'il y a des surprises, même si c'est tiré de la vie quotidienne, c'est tiré de ma propre vie. Moi, ma propre vie m'intéresse pas au premier degré. C'est peu intéressant. Je pense toujours au lecteur à l'autre bout. Est-ce qu'il va avoir du plaisir à recevoir ça? Si oui, ben alors là, ça vaut la peine de l'écrire et puis de l'informer aussi. J'ai toujours une espèce de tendance à faire d'éducation dans mes albums, c'est-à-dire parler de quelque chose que le lecteur connaît pas. Dans Paul à Québec, c'était les centres de soins palliatifs. Comment ça se passe en centre de soins palliatifs, etc. Dans Paul au parc, ben c'est ça, c'est le scoutisme. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne connaissent plus le scoutisme. Je les informe, mais vraiment pas en moralisateur, mais juste comme ça, en observateur. Voici ce que moi j'ai vécu dans les scouts. Voici voici ce qu'était le FLQ pour moi, et puis voici comment vivaient mes parents et comment était la société des années 70. J'essaie de faire un récit intéressant avec ça.
et d'essayer de creuser, d'essayer de voir justement quel épisode, quel élément peut me servir de bonne matière première, j'imagine, pour réussir à bien le développer. Comme vous disiez, en fait, tout dans nos vies n'est pas nécessairement palpitant, mais chacun a dans sa vie des épisodes qui peuvent être bien racontés, qui peuvent être bien mis en scène. En
fait. Absolument, je dis tout le temps, moi, de toute façon, quand j'aurai plus de sujets pour mes pôles, ça me fait pas peur, parce que vous, moi, n'importe qui, il y a tellement de portes, des histoires intéressantes à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a envie de devenir auteur de bande dessinée, romancier, cinéaste, mais plus je parle avec les gens, plus c'est fou comment je me rends compte, comment les gens ont des choses intéressantes à raconter sur leur vie, qu'ils pensent être ordinaires, mais qui finalement, pour quelqu'un comme moi, qui est à l'affût de matières premières tirées du quotidien, pour moi, il y en a partout, c'est assez fou. Les gens ont des aventures ou des aventures de vie fabuleuses, des fois qu'ils ne savent pas, en fait.
Et le défi, c'est ce que vous relevez bien, à mon sens aussi, Michel Rabagliati, même très bien, oserais-je dire, là, c'est justement de réussir à le rendre, en fait, le côté auteur, le côté metteur en scène. Il faut scripter tout ça, et c'est le travail de première ligne, j'imagine, écrire avant de dessiner ou...
Oui, ben ça c'est le travail d'auteur, vous avez tout à fait raison, c'est là que ça se passe, c'est qu'il faut fabriquer, il faut séparer le bon grain de l'ivraie, il faut essayer de voir quelle matière peut être intéressante à travailler, c'est là qu'est la magie un peu de l'auteur, là, c'est là qu'il faut, bon, Michel Tremblay travaille de la même façon, dans le fond, ses souvenirs d'enfance doivent tenir sur deux pages, mais il en a fait 40 romans, puis je sais pas combien de pièces de théâtre, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible, puis qui va vraiment dans les coins, puis il va vraiment développer des personnages peut-être seulement entreaperçus dans sa vie quand il était enfant, puis il y a une très grande habilité à faire ça. Dans le fond, sa matière première, c'est très, très, très limitée. Michel Tremblay, c'est pas quelqu'un qui a fait des voyages autour du monde, puis qui a coupé des lianes à travers la jungle, puis qui a traversé l'Amazonie. C'est quelqu'un de Montréal, mais qui a une sensibilité extrêmement aiguisée, puis qui, bon, peut faire fleurir des petites graines comme ça, dont on se doute pas, mais il peut vraiment aller très loin avec sa matière première, qui est dans le fond seulement une vie de Montréal ordinaire.
Et justement, de quelle manière un peu vous procédez? Est-ce que c'est d'abord justement un gros travail de scénarisation sur papier, c'est dire, ben voici, ça va être les épisodes, essayer de définir par planche, écrire, ou est-ce qu'on passe rapidement vers le dessin?
Oh, ben, au départ, moi je fais comme un romancier, c'est très strange, je travaille un peu comme Hergé, là je me rends compte en lisant sur Hergé, les aventures de Tintin étaient un peu construites comme ça, donc Hergé se soignait, prenait des notes, faisait un synopsis, donc un espèce de scénario résumé, bon Tintin s'en va là, Tintin s'en va là, ensuite il se mettait au découpage, mais les découpages d'Hergé, c'est très peu fouillé, c'est des bonhommes allumettes, là lui aussi s'en allait, il faisait des découpages très rapides pour voir si ça fonctionnait, ensuite il s'en allait vers un crayonné plus précis, ensuite vers un autre crayonné encore plus précis, puis de l'ancrage, puis bon, recherche de décors, documentation, évidemment Hergé allait beaucoup plus loin que moi là, au niveau des décors, des véhicules et tout ça, mais c'est un peu la même façon de fonctionner, j'y pense avec un synopsis, moi aussi au départ, c'est écrit, ça c'est malléable, quasiment tout le long du processus, donc c'est simplement écrit. Donc avant de dessiner, moi je veux avoir un canevas, une grille assez précise avant de me lancer dans les dessins, parce qu'il faut pas oublier qu'en bande dessinée, c'est extrêmement long. Moi je passe 2 ans sur un album, donc il y a 2 années de ma vie qui passent là-dessus. Fait qu'il s'agit d'avoir un synopsis assez solide avant de se mettre à faire des dessins.
Et justement, qu'est-ce qui s'en vient pour la suite? Il n'y a pas la Québec, le film qui est prévu, je crois, pour dans quelques années. Est-ce qu'il y a un autre Paul Papier aussi qui...
Si je me regarde aller, je veux dire, depuis les dernières, les 10 dernières années, les sujets sont venus à moi un peu seuls. C'est-à-dire, après, j'en lance un, et puis bon, j'attends un peu de voir les échos des lecteurs, et puis tout ça, puis bon, quelques mois plus tard, j'ai plus rien à faire, je m'emmerde, je me tourne les pouces, fait que là, je me mets à écrire quelque chose, puis finalement, ça prend forme, ça prend la forme d'un synopsis. Ensuite, je me mets au découpage, puis ça va tout seul. Il s'agit d'avoir un sujet qui me tient à cœur, qui m'énergise assez longtemps pour que je sois... que je sois prêt à travailler là-dessus 2 ans. Mais ça se profile toujours un peu de la même façon. Là, c'est sûr, il y a un film à faire, il n'y a pas la Québec. J'aimerais donc mettre plus de temps là-dessus avec le réalisateur. D'ailleurs, on travaille intensément là-dessus ces temps-ci. On est à l'écriture, on est à la deuxième phase d'écriture, on est aussi scénario dialogué. C'est très intéressant comme travail. Donc ça, je crois que je vais un peu finir un peu le film avant de me remettre à une bande dessinée.
Alors bon, d'ici là, on peut lire et relire. Donc, Paul au parc, disponible aux éditions La Pastèque. Michel Abagliati, merci beaucoup.
C'est un plaisir.
Et à la prochaine, peut-être.
À la prochaine.
Ah ben voilà, donc Michel Rabagliati, auteur, je le rappelle, de Paul au parc. On va prendre une courte pause et au retour, on jase avec Yann Fortin autour de Bonnie, également à venir Pascal Roux.
En collaboration avec Relève en Capital et l'Ampli de Québec, le collectif Mélogramme lance son nouveau EP, La Salle d'attente. Riche de ses expériences festives aux quatre coins du Québec et à l'international, la formation propose quatre nouveaux titres et un style redéfini, du gypsy rock à la sauce métal. Rendez-vous le mercredi 7 décembre 2011 à l'Ampli de Québec en formule 5 à 7. Entrée libre. Mélogramme, également en spectacle à tous les troisièmes dimanches du mois au dimanche festif de la Mikasi et le 10 décembre au festival Relève en Capital au concert patiné de la place d'Youville. Informations sur mélogramme.com.
Le 25 novembre, participez à la Fête de la solidarité. Une soirée cabaret organisée par le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec au profit de la défense collective des droits. Venez déguster un souper chili préparé par le Café Babylone et danser avec nos invités, Zic Non Bombs, Flavia Nascimento, Stéphane Robitaille et Ja & I. Vendredi 25 novembre à partir de 17h30 au Centre Horizon. 801 4e rue dans Limoilou, entrée 10$. Informez-vous sur sfgpq.org, 418-529-4407. La fête de la solidarité est rendue possible grâce à la Caisse d'économie solidaire, le Café Babylone, la Boîte à pain, Michel Yacoub, Agnès Maltais, la coopérative La Mauve, la Ville de Québec et CKRL.
Du 24 au 27 décembre au Studio P, Le Chemin qui marche présente Les Métamorphoses d'Adalbert. Spectacle d'objets, de marionnettes et d'ombres pour toute la famille.
Entourant les représentations, Espace Art Nature vous invite à assister à des rencontres riches de sens. Causerie sur l'inattendu, table ronde sur la beauté, atelier sur l'art de raconter une histoire.
Pour tout savoir, lestudiop.com. Le Studio P, art et littérature en scène.
89.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e avenue, 418-529-3829.
On est toujours avec vous jusqu'à 18h30 pour La Vie en BD ici à CKRL 89.1. Et je vous rappelle, si vous voulez écouter des émissions passées, bien, vous pouvez le faire via le blog lavieenbd.wordpress.com. On a également une page Facebook, alors vous pouvez continuer de suivre autrement que radiophoniquement l'univers qu'on vous propose ici à l'émission. Et ben, nouvelle parution également qui nous arrive des studios Première Ligne dans la collection Cumulus, les aventures d'un lapin, donc des gags, ça s'appelle Bonnie, tome 1, donc le bout de la carotte. Et pour nous en parler, ben, l'auteur est avec nous au bout du fil, Yann Fortin, bonjour.
Bonjour.
Alors, Bonnie, un lapin, qu'est-ce qui vous a amené à créer ce personnage-là, à avoir envie de le proposer aux lecteurs-lectrices?
Ben, je ne sais pas si c'est arrivé un jour de fête. C'était le jour de ma fête. Et c'était dans la soirée, après avoir fait un peu. Je suis revenu chez moi, puis j'ai pensé à cette idée-là d'un lapin. Je trouvais que c'était un peu original. Comparé à différents sites qu'on voit, on voit des chats, des chiens, des souris. Et moi, j'étais attiré par le lapin avec un gros nez. Puis, c'est que c'est ça, j'ai pensé à cette idée-là.
Et l'idée, j'imagine, c'est de développer un personnage qui se tient graphiquement, puis en même temps, avec une personnalité, avec un univers qui est propice aussi pour des gags, pour un certain développement.
Oui, exactement. Puis pour faire à peu près comme qui a déjà été fait, c'est de trouver des personnalités un peu différentes, des personnalités un peu plus originales ou différentes, simplement, pour créer un autre genre d'univers, puis
Et comment on le présenterait justement côté personnalité, là, Bonnie?
On pourrait le présenter comme un petit gars, mettons, 8-9 ans, naïf, un peu, un lapin ludique, je sais pas, un petit garçon bien gentil, de tous les gens-là, qui fait bien gaffe, qui apprend dans la vie, puis, finalement, c'est un petit lapin bien simple.
Et qui est entouré d'une série de protagonistes, sa famille, son père, sa mère, son grand-père, des frères, des amis, des ennemis. Donc, vous lui avez donné quand même un univers assez large aussi pour créer, j'imagine, différents balanciers, là, différentes mécaniques aussi.
Oui, ben, beaucoup de personnages sont un peu l'opposé de lui. Donc, comme son grand-père, il n'est vraiment pas fin. Il n'aime pas vraiment Bonnie. Et même si Bonnie aime son grand-père, c'est pas très réciproque. Puis ça crée ce genre d'environnement-là dans la BD. Il y a Bruno aussi qui est comme un peu l'opposé. Puis d'autres personnages qui se rajoutent à ça aussi.
Et ça devient important parce qu'en même temps, faut le spécifier aussi, Bonnie, c'est des gags, c'est trois cases, ça va rapidement. Donc faut que les caractères soient bien établis aussi.
Oui, ben, je pense que c'est ça le secret pour faire des gags, c'est vraiment beaucoup les personnalités. C'est la première chose qu'il faut créer vraiment, là, de pouvoir saisir la personnalité de tes personnages, parce que des fois, on les dessine, on les connaît pas vraiment. C'est très difficile de trouver des gags. Puis souvent, la raison, c'est parce qu'on connaît pas nos personnages vraiment. Mmh. On les connaît très bien. Puis on crée un peu de contraste entre tes personnages, mais c'est vraiment plus facile de faire des gags.
Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui aiment bien le format planche côté gag. Il y en a qui développent sur album. Vous avez choisi d'aller justement avec ces courts strips, quelques cases, des trucs très rapides. Pourquoi avoir fait ce choix-là?
Je trouve ça plus simple. Moi, ça me sert plus. Je préfère rire plus souvent que prendre un certain temps en rire. Je ne sais pas. J'aime ça voir des petits gags souvent. Je suis plus attiré par ça. Puis, tout le monde de mon entourage était plus attiré aussi par ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est décidé de faire une planche, au fond, ben, du même sujet, sur une page, sauf que je prenais un sujet et je disais en quatre gags. Fait que je gardais quand même un peu le principe d'une planche, mais bon, ça restait quatre gags différents pareils.
Oui, j'ai trouvé la structure assez stimulante aussi, il faut dire, parce que ça me donne l'impression que vous avez quand même cherché justement à exploiter au maximum une situation. Exemple, il y a un monstre en dessous de son lit, qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Là, on essaie de trouver des variations qui fonctionnent.
Exactement. Oui. En plein ça. J'essaie de trouver des idées face à ce sujet-là et comment qui réagiraient les personnages. Puis étant donné que je connais quand même assez bien les personnages, ben, c'est vraiment plus facile justement de trouver des mises en situation puis trouver des gags qui tournent autour de ce sujet-là.
Et j'imagine, est-ce qu'on s'installe avec une planche, on essaie d'en dessiner, ou est-ce qu'on y va avec des idées? OK, c'est la situation que j'ai pensée aujourd'hui, je sors un maximum d'idées et je vois ce qui marche, ou...
Généralement, bon, j'essaie de passer une mise en situation. Je décide que Bonnie, aujourd'hui, va faire telle affaire. J'essaie d'exploiter ça au maximum, jusqu'à temps que ça soit drôle. Mais si je vois que j'essaie de trouver des idées, puis vraiment, il n'y a rien qui sort, ben là, je vais changer de sujet ou de mise en situation pour faciliter un peu les gags.
Et ça force un cadre, justement, j'imagine, ça force une certaine discipline, entre guillemets, pour l'auteur.
Vous voulez dire pour trouver les gags?
Exactement, pour trouver les gags, les sujets.
Oui, c'est ça. Ça force un peu, puis moi, je néglige de faire un strip par jour minimum. Si jamais j'en trouve pas, faut au moins j'en trouve un. Je dois faire un autre.
Donc ça donne une certaine obligation, si on peut dire.
Oui, exactement.
Et ce qui fait qu'un album comme Bonnie, on parle d'un développement quand même sur quelle période, sur quelle longueur?
Moi, ça m'a pris à peu près 2 ans, mais ça prend pas 2 ans à la faire. En réalité, je suis capable de faire une planche par jour. Le différent, c'est que bon, je fais d'autres choses aussi. Je travaille dans la publicité, je fais d'autres illustrations pour d'autres compagnies, donc j'ai un autre métier aussi. Mm-hmm. Et Junior Nobel, ben, c'est un peu pour ça que ça prend un certain temps. Mais probablement pour une deuxième s'en vient. Je suis en train d'en préparer une justement. Et ça va sûrement prendre vraiment mon temps.
Et aussi, aussi, on peut signaler au passage, en fait, sur bonnybd.blogspot.com, les gens peuvent retrouver, d'ailleurs, si on se demande un peu quel esprit, quel type de gag vous proposez, il y a quelques strips qu'on y retrouve, et il y a un Facebook aussi, vous êtes assez actif sur ces médias-là. Est-ce que ça permet de rester, d'avoir un certain contact pendant la création, par exemple, avec des lecteurs, avec des gens qui sont intéressés par le travail, d'avoir un feedback plus immédiat?
Justement, je trouve que c'est bien pratique, notamment à cause de ça. Facebook, j'essaie de m'en servir régulièrement. Fait que je trouve que c'est une belle façon d'aller sur Facebook. J'ai un feedback très, très rapidement des personnes. Je peux savoir le nombre de personnes qui ont vu ma gagne, combien de personnes qui l'ont partagé, combien les commentaires. Je peux tout voir. Donc, pour moi, c'est plus facile après ça calibrer mes gags en fonction, sans trop détourner de ce que je veux faire moi. Mm-hmm. Mais je m'inspire un peu de ça pour m'orienter un peu dans ce que je fais.
Et est-ce que des fois on est surpris, on se dit OK, ce gag-là, je le sens moins, mais je le sais quand même, et finalement que les gens embarquent à fond, est-ce que ça arrive ou?
Oui, c'est ça. Ben, justement, il y a un gag que j'ai remarqué qui était vraiment très fort. Ben, je le trouvais drôle, mais je pensais pas que le monde l'aimait tant. Il a été beaucoup regardé, donc c'est ça. C'est vrai, des fois, c'est l'étonne.
Et donc, parallèlement aussi, on peut le mentionner au passage, Bonny, tome 1, c'est, je crois, du côté de Première Ligne, c'est leur premier album de type un peu européen, là, avec Cartonné et le reste. Est-ce qu'ils ont embarqué rapidement dans ce projet-là que vous leur proposiez? Comment ça s'est passé, le pont vers Première Ligne, justement?
Justement, moi, c'est que j'avais fait une capsule animée qui a fait beaucoup rire Eric, qui s'occupe de moi dans la maison d'édition. Et c'est ça, ça l'a fait beaucoup rire, mais qui n'avait pas rapport avec Bonny. Puis pendant ce temps-là, moi, j'avais fait des BD dans Ça fait rire. Bonny n'avait pas passé dans Ça fait rire à plusieurs reprises. Et il m'avait proposé de faire, d'éditer BD de Bonny. Et après réflexion, j'ai accepté. C'est un peu comme ça que ça s'est fait. Il était vraiment intéressé de publier Bonny.
Et on invite les gens, justement, à découvrir cet univers-là, à découvrir le premier tome en attendant le deuxième. Alors, Bonny, tome 1, Le bout de la carotte, c'est chez Première Ligne. Yann Fortin, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Au plaisir.
OK. Bye.
Bye-bye. Ah ben voilà, donc, Bonny, tome 1, Le bout de la carotte, je le rappelle, c'est chez Première Ligne, collection Cumulus. Entendre un autre petit extrait de la formation Couple Craft, donc je rappelle un duo japonais qui donne dans le 8-bit évidemment. Alors 8-bit de la musique faite à partir de ces jouets, du moins de mon enfance, pas nécessairement de la vôtre, je sais pas quel âge vous avez, mais d'une certaine enfance, allons-y avec ça. Et c'est disponible sur le web, sur l'étiquette 8-bit People. On mettra bien entendu en cours de week-end l'information sur le blog de l'émission. Et là-dessus, on a le plaisir d'accueillir avec nous notre collaboratrice Pascal Roux. Bonjour.
Bonjour Raymond.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Et enfin, on profite de novembre. Les ténèbres sont de plus en plus présentes. Les nuits se prolongent. Alors, une belle période pour plonger aussi dans l'univers de l'horreur et de l'épouvante.
Tout à fait. Le mois de novembre étant le mois des morts, c'est presque fini, mais avec les Japonais, c'est jamais fini. Oui, j'ai décidé cette fois-ci de parler du style manga d'horreur ou manga d'épouvante qu'on appelle le manga kawaii, à ne pas confondre avec kawaii. Kowai qui veut dire en japonais à peu près j'ai peur. C'est assez simple. Autant dans la bande dessinée occidentale, la bande dessinée d'horreur ou d'épouvante n'a pas tant que ça la cote. Il n'y en a pas tant que ça. Autant chez les Japonais dans le manga, il y en a énormément, et ce depuis les années 60. C'est sûr que les Japonais ont ça de particulier, qu'ils ont tellement une grande liberté au niveau du graphisme. Ils utilisent tellement d'extrêmes que c'est facile, en fait, pour eux d'entrer un petit peu dans ce genre d'univers.
Oui, on le voit, en fait, sous toutes les déclinaisons aussi, même au cinéma, par exemple, où ils vont toujours plus loin, on dirait.
Oui, ils vont toujours extrêmement loin. C'est comme une mécanique qui déroule jusqu'à la fin, sans arrêt. Alors, je me suis un petit peu intéressée, parce que moi, j'aime certains auteurs en particulier, dont je vais parler d'ailleurs, Junji Ito, c'est vraiment mon auteur préféré dans le genre. Je me suis intéressée aux origines de cette espèce de goût pour l'iconographie vraiment morbide. Et j'ai découvert qu'en fait, depuis le XIIe siècle, les Japonais ont une assez grande iconographie représentant les fantômes, des créatures maléfiques, affreuses, qu'on appelle des... yokai. D'ailleurs, on peut très bien se costumer en yokai aux alentours d'Halloween. Ce sont les créatures les plus monstrueuses et les plus bizarres qu'on puisse inventer. Ça peut être n'importe quoi.
Ok, donc c'est vraiment, on met des bras, on met des yeux,
on met des tentacules. Le plus absurde, le plus bizarre, le plus horrifique possible. Donc ça remonte vraiment, vraiment à longtemps, les créatures difformes, l'espèce de peur, j'ai pas d'exemple particulièrement, en plus à la radio ça donne pas grand chose de dire voyez donc cette gravure du 15e siècle, mais ça remonte vraiment à loin. Mais pour ce qui est du manga kawaii en tant que tel, ça remonte donc aux années 60, et ça a été porté particulièrement par le magazine Garo, parce que ce qu'il faut savoir au Japon, c'est que le manga est d'abord publié en magazine. Donc des épisodes à chaque fois dans des magazines, je pense que j'en avais parlé une des dernières fois. Et quand ça a suffisamment de succès, à ce moment-là, ils sont publiés en recueil, qui en sont ensuite, avec un peu de chance, traduits en français, et que nous, enfin, pauvres occidentaux, nous pouvons lire. Ça a vraiment commencé dans le magazine Garo dans les années 60. J'ai vu quelques auteurs en particulier, Kazuo Umezu, qui a fait L'école emportée. C'est une série vraiment assez terrifiante, où c'est même, j'allais dire, le chef de file de ce genre-là, où une école disparaît d'un seul coup de la carte et est transportée dans un univers post-apocalyptique absolument épouvantable, et évidemment l'école avec les enfants dans l'école. Et tout ce qui peut s'en suivre. Ça, c'est vraiment resté. On a d'autres auteurs comme Shigeru Mizuki. On connaît peut-être son personnage Kitaro, qui est un peu l'auteur de l'inquiétude. Suehiro Maruo, qui lui fait dans l'érotico-grotesque.
Ça donne le ton, je pense.
Ça donne le ton. Je dirais qu'ailleurs qu'au Japon, il serait probablement mis en prison pour ses créations, parce qu'il flirte aussi avec la pédophilie un peu. Les Japonais, des fois, ne sont pas très très nets avec ça. On a également des séries comme Parasite, qu'on appelle du body horror, c'est-à-dire les métamorphoses abominables du personnage principal, quelle que soit la transformation. On a aussi les représentations plus classiques des histoires de fantômes, comme la série Ringu, qui est une série de romans qui a ensuite été mis en manga et qui a aussi été adapté au cinéma et ensuite réadapté par les Américains.
Et c'est fascinant de voir la distinction entre la version japonaise et la version américaine. Deux univers d'horreur qui ne sont pas nécessairement compatibles.
Ils ne mettent pas du tout l'accent sur la même chose. C'est hallucinant. Quand j'ai vu Ringu et Ring, je m'attendais à autre chose, puis je ne sursautais pas du tout au moment où je m'attendais.
En fait, c'est toujours intéressant là-dessus, l'horreur. J'imagine que ça doit être la même chose en manga, et ça me donne vraiment envie d'explorer cet univers-là. Ce qui fait peur dans d'autres cultures n'est pas nécessairement la même chose que ce qui nous fait peur dans notre culture. C'est quelque chose de culturel, l'épouvante, l'horreur.
C'est quelque chose de culturel, et selon les époques depuis les années 60, et selon les auteurs, ils axent pas du tout sur la même chose. Il y en a certains, c'est vraiment le côté beaucoup de sang, c'est vraiment gore. D'autres, c'est vraiment l'inquiétude, la peur, l'espèce de folie qui monte. D'autres, c'est les transformations du corps, mais jusqu'à un point tellement absurde que ça en devient à la fois burlesque mais en même temps
dérangeant.
C'est une fascination morbide pour ça. Et moi, j'ai une espèce de faible pour ce genre-là. Le genre, on part d'une prémisse complètement absurde. Par exemple, un village dans les montagnes est sous l'emprise d'une malédiction, la malédiction de la spirale. Et absolument tout commence à se transformer en spirale. Les objets, la nature, les hommes, les cheveux, les tout ce qu'on veut, et ça devient... C'est vraiment absurde comme ça. Évidemment, ça se peut pas, évidemment. C'est du fantastique. Mais il a la particularité de Junji Ito, c'est qu'il prend cette prémisse impossible, absurde et même humoristique, parce que ça donne des scènes absolument mais délirantes, et il déroule cette mécanique, cette logique de la terreur et de l'horreur jusqu'au bout.
Oui, et je veux dire, graphiquement, en fait, je le feuillais depuis tout à l'heure, Pascal Roux, et je veux dire, il y a des images qui, en fait, qu'on regarde quelques instants, qui restent en tête, je veux dire, le visage d'une jeune fille qui devient une spirale, certains traits qui pénètrent à l'intérieur de sa tête, je veux dire, ça va loin, il y a un jusqu'au boutisme qui est à la fois admirable, à la fois terrible.
Tout à fait, c'est vraiment l'inéluctabilité, l'inexorabilité du processus vers le chaos. Donc, Junji Ito, c'est un auteur qui a l'air bien normal, propre sous tout rapport. Je dis ça parce que l'auteur de L'École emportée était, semble-t-il, assez fou allié, et disons que ses mangas n'étaient que le reflet de son esprit vraiment très très perturbé. Donc Junji Ito, né en 63, il a commencé dans les années 80 à faire du manga, il reçoit le prix Kazuo Umezu, L'École emportée, donc un prix d'horreur. Ce qui m'a attiré la première fois, c'est effectivement, bon, c'est un gros nom, le graphisme est sombre, il est quand même très net, c'est un dessin assez épuré, quand on n'est pas encore dans la situation d'horreur, quand il met ça en place, ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus chargé, de plus en plus horrible, il met cette espèce d'effroi dans l'aberration, une horreur quasi clinique, c'est ce que j'appelais le processus vers le chaos, vers l'horreur, c'est que ça va, c'est une logique qui ne s'arrête jamais. Ça va vraiment, c'est un jusqu'au boutisme très effrayant, comme dans les films Audition ou les films Visitor Q, ouais. Des choses comme ça, où il y a cette espèce de côté propre et en même temps dégoûtant. Je ne sais pas comment dire ça. C'est une précision médicale quasiment dans l'horreur.
Oui, en fait, un peu la même fascination qu'on aurait si on frappe une moufette, qu'on débarque et qu'on a un bâton et qu'on est fasciné. Je veux dire, on touche et on est dégoûté en même temps. En fait, c'est attirant, c'est répulsion. C'est une relation très particulière. Là.
On va fouiller parmi ce que l'humain a de pire, de plus épouvantable, de loin. Puis c'est une fascination morbide. On est comme rempli de cette fascination. C'est dégoûtant, on a envie de rire parce que c'est tellement absurde sur certains côtés, mais en même temps, c'est comme une espèce de malaise profond qui s'installe. Ça donne pas le goût d'en lire, dit comme ça. Mais c'est ce qui est vraiment intéressant avec Junji Ito. Puis en plus, c'est qu'il n'a aucune prétention philosophique. C'est-à-dire qu'il dénonce rien.
Il veut faire peur.
Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas le pourquoi. C'est le comment ça se déroule. C'est le processus de transformation physique, il y en a énormément. Le processus qui mène l'humain à céder à ses pulsions les plus sombres et par conséquent à sa mort. Il utilise des personnages jeunes, juvéniles, immaculés, pour vraiment montrer le contraste entre la beauté et la monstruosité. C'est vraiment un univers. En fait, ce qui le différencie de tous les autres, c'est la démence. La démence qu'il met dans toutes ces histoires.
Et c'est ce qui fait que si quelqu'un nous écoute et dit « Ben ouais, j'aurais envie de voir qu'est-ce que c'est cet univers-là, que le manga d'horreur, eh ben, faut commencer par Junji Ito. »
Je dirais que ça pourrait être effectivement bien. C'est sûr que c'est un choc, si jamais on n'en a jamais lu. C'est un choc de voir ça, parce que déjà, c'est du manga, mais en même temps moins archétypal, par exemple, que Naruto, Dragon Ball. Les personnages ont quand même ont des traits assez réaliste. C'est sûr que si on veut lire Junji Ito, il faudrait commencer par Spirale, qui s'appelle Uzumaki, ou Tomie, Les deux ont d'ailleurs été adaptés en film, mais j'avoue que je ne les ai pas regardés. J'ai un peu peur que ça soit légèrement trop pour moi, même si je suis habituée à ce genre de choses. Et je dirais que l'avantage quand même avec Junji Ito, c'est que oui, c'est fascinant, morbide, c'est bizarre, c'est glauque, c'est cauchemardesque, mais justement, c'est tellement irréaliste, c'est tellement cauchemardesque que quand on a fini la lecture, c'est comme de se réveiller d'un cauchemar. On ne reste pas non plus pogné dedans. Il n'y a, mmh. a pas cette espèce de peur existentielle qui nous prend, comme quand on regarde, je ne sais pas moi, un film de tueur en série particulièrement horrible.
Ou des zombies, ou des choses comme ça, que l'image peut nous hanter. Ici, c'est, on pousse vers l'absurde, donc ça ne peut pas...
C'est ça, on pousse vers l'absurde, on pousse jusqu'à la fin. Mais une fois qu'on a fini, qu'on ferme, c'est... Je suis sortie. C'était une expérience à vivre, mais j'ai jamais fait de cauchemar de lire du Junji Ito. Ça fait que moi, je dirais que c'est vraiment un auteur à découvrir vraiment pour ce genre-là. Après, il y a énormément d'autres auteurs à lire, ceux dont j'ai parlé tantôt. Mais Junji Ito, c'est vraiment, vraiment une grande pointure au niveau du manga d'épouvante.
Ah ben voilà, une suggestion de lecture tout automnale.
Tout automnale, oui. Lance, juste avant Noël.
Juste avant Noël. On changera de groupe pour la dernière chronique.
Exactement.
Pascal Roux, merci beaucoup.
Merci Raymond.
Et on se dit à bientôt. Alors ben nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. Dans quelques instants, c'est l'équipe de 100% Dynamite qui va prendre la relève. Et revenez-nous bien entendu la semaine prochaine dès 17h30 ici à CKRL. On aura notamment l'occasion de discuter avec Sviane autour de sa dernière parution, Pain de viande avec dissonance. Alors c'est Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce vendredi.